Comment se construit un personnage, un scénario? Qu'est-ce qu'on garde? Pourquoi? Quelle scène finit-on par enlever alors qu'on l'adorait? Si vous vous intéressez au cinéma et plus largement à la création, vous vous êtes sans doute déjà posé ces questions. Peut-être aussi aimeriez-vous parfois être une petite souris qui se glisse dans les coulisses d'un tournage? Eh bien, vous allez pouvoir le faire, et pas avec n'importe qui. Luc Dardenne publie Au dos de nos images 3, 2014-2022, le journal qu'il a rédigé pendant l'écriture et le tournage de Tori et Lokita, prix spécial du dernier festival de Cannes, mais aussi La jeune fille inconnue avec Adèle Haenel ou encore Le jeune Ahmed où un adolescent se radicalise. Il est suivi des scénarios complets des films, un document exceptionnel sur le cinéma des frères, mais aussi sur l'intimité de la pensée de Luc, ses interrogations, ses livres, ses films de chevet. Bonjour Luc Dardenne.
Bonjour.
Au dos de nos images, c'est un journal de création, mais aussi un journal tout court. Vous consignez vos réflexions sur l'actualité, la vie politique, la société, vos lectures. On est proche de la philosophie même. Il y a aussi des petits textes, des idées de scénarios. Pour nous, c'est évidemment très intéressant à lire à bien des égards, mais pour vous, à quoi servent ces textes? Pourquoi vous tenez ce journal?
C'est une longue histoire. Ça a commencé en 92, après un film qu'on a fait qui était un échec financier, un échec public, un échec critique. Et on s'est posé la question de savoir que faire. On continue pas. Et j'ai commencé à tenir ce journal pour réfléchir à pourquoi on avait fait ce mauvais film et comment s'en sortir.
Là. Mais ça, c'était il y a longtemps. Et vous avez continué.
Et j'ai continué. Pourquoi, je n'en sais rien exactement, mais je pense quand même que quelques années plus tard, je dirais une dizaine d'années plus tard, je rencontre Maurice Hollander, l'éditeur du Seuil, qui me dit, tiens, est-ce que par hasard, tu n'écrirais pas des choses sur le cinéma? Je dis, je tiens des notes d'un journal depuis une dizaine d'années. Et il m'a dit, tu peux m'envoyer quelques pages. J'ai envoyé quelques pages et ça l'a intéressé. Il a dit, j'aimerais publier. Donc, je pense que ça a joué aussi un rôle, le fait qu'il m'ait proposé cela. Et ensuite, c'est un peu... Et mon frère, parfois, il fait plus attention que moi quand il lit. Il dit, mais tu disais ça dans le journal où on avait dit ça, parce que les notes que je prends, c'est parfois des résumés de discussions que j'ai avec mon frère. Donc, lui-même, il me dit, tiens, mais on pourrait peut-être repartir de cette idée dont tu parlais en 2002 ou en 2003. Voilà. Donc, c'est devenu, au départ, c'était bon, essayer de comprendre son échec, essayer de réfléchir par rapport à cet échec, et puis après, c'est devenu une sorte de mémoire, si vous voulez, pour repartir dans d'autres scénarios, de nouvelles idées qui s'appuient sur des choses que j'aurais notées.
Vous écrivez aussi, c'est ma façon d'être à deux pour faire des films. Alors, est-ce que c'est parce que l'écriture permet davantage un dialogue que juste penser tout seul? C'est quoi cette dualité? Être à deux avec votre frère aussi, bien sûr, j'imagine. Mais...
Pour faire des films, oui, bien sûr. Mais ça, c'est toujours comme cela que nous avons travaillé.
Mais vous êtes plus à deux quand vous écrivez, en tout cas?
Non.
Non.
Non, on est plus à deux quand on filme ou quand on écrit le scénario. Mais quand je prends ces notes, c'est moi. C'est pour ça que mon frère ne m'accompagne jamais pour en parler, parce que ça reste mes notes de travail, de réflexion... sur le cinéma, bien sûr, mais aussi sur la manière dont j'arrive à trouver des embryons de scénarios que je communique à mon frère, comme lui me communique ses idées également.
La première chose qui m'a frappée quand je vous ai lu, c'est que lorsque vous parlez de vos personnages, vous parlez d'eux comme s'ils existaient vraiment et que vous essayez de comprendre vous-même pourquoi est-ce qu'ils font ça ou autre chose, alors que bah, on peut se dire c'est vous qui décidez finalement, mais c'est comme si c'était eux qui décidaient. Pourquoi?
C'est-à-dire, le poète Henri Michaux dit « l'artiste n'est pas maître chez lui ». C'est-à-dire, on n'est pas maître, on a l'idée d'un personnage, d'une situation, mais bien sûr, c'est, d'une certaine façon, cette idée est passée à travers vous. Elle vient de vous, d'une certaine façon, oui, mais elle vous échappe en même temps. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui fait un film. L'intérêt d'un film, c'est qu'il n'est pas maîtrisé, c'est que il y a quelque chose d'autre qui arrive, quelque chose qui dépasse celui qui l'a conçu, ceux qui l'ont conçu dans notre cas, ou même le spectateur, qui ne peut pas non plus voir la chose et la maîtriser. Il y a une part d'immaîtrisable, une part de destin, je dirais, voilà, qui fait que la chose échappe, et c'est là, je pense, que son opacité, sa dimension non maîtrisable apparaît, c'est ça l'important en fait. Si c'est juste pour comprendre absolument une chose de manière transparente, C'est pas une œuvre d'art, c'est autre chose. Ça peut être une information, un mode d'emploi, des choses comme ça. Mais c'est pas des textes ou des films ou des peintures, je pense, qui méritent le nom d'œuvre d'art.
Même à propos des plans-séquences qui sont un des marqueurs de votre cinéma, vous écrivez « Notre langage est celui des plans-séquences. Pourquoi le refuser ? Le choix en art n'est pas étranger à une nécessité, un destin. » C'est ce que vous venez de nous dire. Un peu plus loin, toujours à propos de vos personnages, vous écrivez que Rosetta, le jeune Ahmed, vos personnages principaux, en fait, c'est vous. Alors expliquez-nous un petit peu.
Non. C'est nous, c'est-à-dire ce sont des choses de nous, oui, bien sûr. C'est des gens sur lesquels nous avons certainement des connexions qui nous échappent, justement. Mais Rosetta ou Lorna, dans le silence de Lorna, ce sont des gens qui, effectivement, mon frère et moi, on les sent très proches. Et on trouve beaucoup de choses quand on y pense, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des gestes, de la démarche. C'est des gens qu'on sent, effectivement. Je crois que tous nos personnages sont très proches de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nous, au sens où on a vécu ce qu'ils ont vécu, ou on a fait ce qu'ils ont fait, ou c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a quand même une grande proximité, je dirais, avec parce que nos personnages sont souvent des exclus, des marginaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent très fort, qui est très proche de nous.
En tout cas, vous avez besoin de les aimer, j'ai l'impression, oui. Parce que, d'ailleurs, à propos du jeune Ahmed, qui est un adolescent qui se radicalise, à un moment, vous avez un problème, c'est que vous avez du mal à l'aimer. C'est ça aussi, c'est de l'amour.
Oui, il faut l'aimer, c'est-à-dire il faut être capable de lui trouver ce qui permettra de sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Si je prends le jeune Ahmed, son imam lui a communiqué des idées, je dirais, de pureté et de mort. Et il fait partie des plus proches de l'imam. Il est heureux d'être radical, il pense qu'il fait le bien et qu'il a raison de le faire. Comment faire sortir ce jeune fanatique de son fanatisme? C'est très difficile, parce que quand on est fanatique, on pense qu'on fait le bien. Et c'est vous qui vous trompez si vous refusez le bien qu'il vous propose, enfin qu'il vous impose. Et donc, comment sortir? Pour ça, il faut l'aimer. Il faut arriver à souffrir avec lui pour voir si c'est possible de sortir, parce que le fanatisme, c'est compliqué de sortir de ça.
Mais d'ailleurs, on suit vos explorations pour justement trouver comment il pourrait sortir de ce fanatisme. Vous cherchez plein de solutions, vous allez dans un centre qui accueille les jeunes radicalisés, vous avez du mal à trouver cette façon de le faire sortir. Et est-ce qu'à ce moment-là, je me disais, vous n'êtes pas en train aussi de chercher des solutions pour la société de manière générale?
Oui, c'est-à-dire, sortir un personnage de sa situation dramatique, c'est le sortir à travers d'autres personnages. Si je vais dans un centre avec mon frère, nous allons voir là où sont enfermés les jeunes qui ont fait des tentatives ou qui ont fait des actes terroristes. C'est une chose pour nous informer. Mais là, ce que je veux dire, quand il faut le sortir de sa situation, c'est est-ce qu'on peut le faire avec un autre personnage, avec sa mère, avec un ami, avec un éducateur, est-ce qu'un autre personnage va être capable d'entrer dans le cerveau, si je peux dire, dans le corps, dans l'esprit de ce jeune fanatique pour l'en sortir? Est-ce possible? Donc, et ça, on s'est rendu compte que justement, dans ce scénario, on n'arrivait pas à écrire ça de manière, appelons ça, traditionnelle, c'est-à-dire de mettre en rapport le personnage avec d'autres personnages qui allaient l'aider à progresser, à bouger, à être en mouvement. On n'y arrivait pas parce que les autres personnages n'arrivaient pas à entrer en contact avec lui puisqu'il était tout à fait fermé à l'extérieur.
Vous avez prononcé deux mots, vous avez prononcé le mot corps et le mot pensée, je crois. Et justement, ces deux aspects qui sont très très importants chez vous, c'est-à-dire que quand vous parlez de vos personnages, vous essayez vraiment de se plonger dans ce qu'ils ont à l'intérieur de leur tête, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils ont dans leur cœur, et aussi très fort sur les gestes qu'ils font, mais assez peu sur ce qu'ils disent finalement. Est-ce qu'on dit plus par son corps ?
Le cinéma, je pense, oui. Il filme des corps, il filme un corps qui marche, des yeux qui regardent, des mains qui bougent, qui ne bougent pas, un dos. Voilà, c'est là qu'il faut essayer en tout cas, c'est notre cinéma qui est plus minimaliste que d'autres cinémas. C'est pas un cinéma spectaculaire non plus. C'est le corps Mais le corps qui parle, la voix, c'est le corps aussi. Hein. C'est, parler n'est pas, je dirais, purement spirituel, c'est aussi corporel. Et c'est des choses auxquelles dire trois mots au lieu d'en dire dix, ça signifie quelque chose. Un silence aussi. Un silence, donc l'absence de parole à un moment donné. Donc entendre la respiration d'un corps, la main qui passe dans les cheveux. Donc, c'est ça le cinéma, c'est de trouver les détails concrets de la vie des corps. Et c'est là que ça parle.
Est-ce que c'est aussi pour ça, Luc Dardenne, que vous travaillez beaucoup avec des enfants parce que vous parlez notamment d'ailleurs de François Truffaut et du film sur ce jeune sauvage et vous écrivez que chez l'enfant, justement, on ne maîtrise pas et que c'est pour ça que c'est bien.
Oui, l'enfant reste... C'est-à-dire, quand un enfant vient travailler chez vous comme acteur, que vous l'avez casté, que vous l'avez trouvé, bon, là, ça s'est bien passé, il vous semble capable de tenir le rôle, eh bien, il reste aussi lui-même, l'enfant. Il vous échappe, et il échappe au personnage que vous conceviez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est, il est toujours documentaire, très documentaire, en même temps qu'il entre dans la fiction, il reste lui-même. Voilà, et le dernier film, avec Tori Lokita, le jeune garçon qui avait 12 ans, Pablo, mais il restait lui-même. Il a une vitesse pour exécuter des mouvements qui était incroyable. Et au début, on se disait, s'il va trop vite, c'est... Et puis finalement, non, on a compris, c'est lui. Et c'est ça qui est très bien aussi. C'est que vous avez l'impression d'une vérité que vous n'avez pas si le personnage est totalement fictif. Enfin, je veux dire, si l'acteur parvient à devenir... Là, il le devient, mais il reste lui-même vraiment, comme tout acteur d'ailleurs. Mais enfin, un enfant, c'est évident.
On lit aussi votre souci de vous renouveler, que vos films ne s'enferment pas dans un système, dans une petite mécanique qui serait toujours la même. Et vous parlez aussi des applaudissements, des compliments que vous recevez, qui font évidemment plaisir, mais peut-être un peu trop plaisir, vous vous en méfiez un peu. Est-ce que vous trouvez que vous êtes parfois on est trop gentil avec vous ?
Je sais pas, mais en tout cas, il faut se méfier de la claque. Surtout celle qu'on se fait à soi-même, hein, parce que bon, c'est vrai que de temps en temps, on a besoin de, pour rester debout, pour, hein, bon, c'est, on a besoin d'avoir des avis positifs, mais il faut faire attention quand même. Enfin, il faut qu'il soit, je dirais, sincère, voilà, et que ça permet de vous. Moi, j'aime bien discuter avec ou lire une critique. J'aime bien aussi discuter de ce qu'on a fait avec quelqu'un, mais si c'est pas pour être encensé, si c'est vraiment pour, voilà, il vous aide à comprendre, parce que je crois que.
Vous parlez d'ailleurs beaucoup de vos échanges avec les spectateurs.
Bien sûr. Puis avec mon frère, nous sommes déjà deux, donc on n'arrête pas d'échanger et de se critiquer. Mais C'est bien, mais il faut faire attention aux louanges, parce que ça sert à rien pour chercher. Je crois que c'est mieux de. Je ne veux pas dire que je les refuse, c'est pas ça, mais je préfère quelqu'un qui me dit vraiment ce qu'il pense, même s'il n'aime pas le film. Voilà. Et d'ailleurs, quand on va, parce qu'on va beaucoup dans les écoles, dans les salles de cinéma où viennent les écoles plus exactement, eh ben souvent on dit. Si vous n'aimez pas le film, dites-le, le problème n'est pas là. On essaye de comprendre un film, de parler d'un film, souvent d'ailleurs c'est plus intéressant d'un détail que de sujet ou des choses comme ça. Et moi j'aime beaucoup quand les jeunes étudiants et étudiantes donnent leur avis et disent « Non, j'ai pas aimé, je n'avais jamais vu un film comme ça, je comprends pas bien, mais voilà, on parle. » Ça m'intéresse plus que d'entendre dire « c'est formidable ».
Bon, alors, je ne vais pas dire que votre livre est formidable, mais, mais en tout cas, on a abordé évidemment qu'une toute petite partie de ce que vous racontez dans Au dos de nos images, votre journal de création, Luc Dardenne. Dire que c'est intéressant, par contre, ce n'est pas trop louangeur.
Non.
Voilà, on peut aimer, ne pas aimer ce qui est dit.
Bien
en
sûr.
Tout cas, on en ressort toujours avec quelque chose. Il y a aussi les scénarios du Silence de Larna, de La fille inconnue, du jeune Ahmed, de Tori et Lokita, que vous co-signez évidemment, avec votre frère Jean-Pierre. Merci d'avoir été notre invité